Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, pour ma petite présentation sur ce que j'ai appelé la création et transmission de sens par le biais de la traduction des mèmes de l'anglais vers le français. Donc on va pouvoir commencer par le plan, donc avec l'introduction des mèmes et de la multimodalité sur laquelle je travaille, puis mon travail de corpus, mes résultats ainsi qu'une conclusion et des perspectives de recherche si certaines et certains sont intéressés. Donc pour l'introduction, on va d'abord parler des mèmes, donc qui sont un concept introduit par le biologiste britannique Richard Dawkins en 1976 dans son ouvrage Le gène égoïste. Le mème est une unité de transmission culturelle qui est analogue à la transmission génétique, qui saute de cerveau en cerveau par un processus qui, au sens large, pourrait être qualifié d'imitation, et que l'on retrouve avec les mèmes Internet. Le mot « mème » ne vient pas du français « mème », mais du grec « mimema » que Dawkins a raccourci en « mema » et donc en « mime » pour faire une consonance avec « gene ». Avec la recherche, cela a évolué. Donc on a les linguistes Susan Blackmore et Lemar Schiffman qui se sont intéressés donc au mème Internet principalement. Et donc, se pose la question de la provenance de l'appellation « mème » pour les images et vidéos humoristiques. Et c'est Jim McGrath, en 2019, qui nous explique que MEME provient des réseaux et des forums des Usenet, qui est un système plus ou moins similaire à Internet, et qui s'est développé dans les années 90. Et donc, c'était des références de la culture populaire, etc., que les gens pouvaient se partager et dont ils avaient des références communes. Donc, ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les forums type jeuxvideo.com, etc. Donc, on passe ensuite à la multimodalité, donc vous pouvez voir un exemple ici qui n'est pas très joli, désolé. Donc c'est une pancarte avec donc de l'écriture plus une image pour vous indiquer, hop, vous tournez ici pour vous garer dans un parking. Donc c'est l'utilisation de différents modes de communication pour transmettre des informations, donc la parole, les gestes, des expressions faciales, les mouvements du corps, l'écriture, de l'image et du son, à titre d'exemple. Le principe a notamment été étudié par Charles Forsdale, donc des Pays-Bas, et plus particulièrement en ce qui concerne les métaphores multimodales en linguistique, dont les domaines sources, donc à partir desquels on élabore une métaphore, et les domaines cibles, que l'on comprend grâce à la métaphore, se présentent sous ces différents modes. A noter que la multimodalité donc, est déjà présente autour de nous avec les panneaux, les pubs, etc., comme l'a indiqué Kress en 2010. Pour le travail de corpus, je me suis principalement focalisé sur des mèmes qui regroupent images fixes et textes sur un forum subreddit r/memes du site Reddit. Et les mèmes sont à visée purement humoristique. J'ai vraiment essayé de trouver quelque chose qui n'avait pas de politique ou autre chose du genre parce qu'on a vite des problèmes avec ça. Le critère important, c'était une difficulté lexicale ou grammaticale pour ce qui est de la traduction parce que parfois, les mèmes ont un langage assez varié. Qui est compliqué à traduire. Donc là, on a un exemple de même. You sleep to recharge your brain and body. I sleep to escape this insufferable world. We are not the same. Donc ce même est un même que j'ai appelé d'adresse, donc avec une utilisation des pronoms personnels you et I pour se référer à l'énonciateur, donc le créateur du même ou memeur, et au co-énonciateur, celui qui va voir le même, donc spectateur ou internaute. Le texte est une scission entre deux parties, donc le sommeil en tant que moyen de se reposer, de recharger ses batteries, comme on le dit via une expression plus idiomatique, ou le sommeil en tant qu'échappatoire à un monde qui est source de souffrance, donc selon le mèmeur. Donc on a un point de vue basique, celui du spectateur, face à un point de vue subjectif et surtout subversif de la part de celui qui a créé le mème. L'image, quant à elle, montre un personnage à moitié dans l'ombre qui regarde directement l'internaute pendant qu'il a juste sa cravate. L'air dédaigneux du personnage fait penser qu'il se sent supérieur à l'internaute et surtout, la tenue et le mouvement au niveau de la cravate lui donnent un certain prestige, comme s'il avait comme en plus de valeur, on va dire, que l'internaute. Et en somme, le mèmeur, représenté par le personnage ici, se démarque de l'internaute. Et donc, voilà la traduction que j'ai proposée, puisque il y avait une complication, c'était « we are not the same ». Nous ne sommes pas les mêmes, nous ne jouons pas dans la même cour, nous n'avons pas le même niveau. Puisque le personnage a une cravate et est habillé de façon plus distinguée, j'ai choisi de traduire par « tu dors pour recharger tes batteries, je dors pour échapper à ce monde insupportable, nous n'avons pas les mêmes valeurs ». Ensuite, nous pouvons passer à un second mème, qui est une parodie d'une scène d'un film. Donc c'est « Me telling my friend that bitches come and go, him at his mother's funeral ». Donc on retrouve un mème séparé en deux parties, chacune montrant un personnage dans une situation donnée, donc un enterrement pour cette scène. Le texte présente une chute qui repose sur le décalage, notamment de ton, entre les deux parties. Donc on a le côté un peu drôle de « bitches come and go » et l'autre très triste. Quant à l'image, les deux personnages sont aux antipodes de par l'attitude qu'ils adoptent. Donc le premier personnage est très souriant, voire drôle et détaché. Et le second, bon, voilà. Il est très triste parce qu'il est aux funérailles de sa propre mère. Et on a donc un phénomène d'escalade. En premier lieu, on porte le regard sur la première partie, notamment sur la phrase à but plutôt humoristique, quand bien même elle ne serait pas pour certains, parce que bon, on a le mot bitches, qui selon moi a pu changer en fait avec le langage jeune, comme on l'appelle, où bitches ne veut plus simplement dire salope, mais meuf, entre guillemets. Ensuite, on passe à la deuxième partie qui se veut bien plus solennelle et sérieuse, et en fait, c'est le décalage entre les deux parties qui suscite le rire et fait appel à l'humour, surtout l'humour noir de l'internet. Et donc, pour traduire « bitches come and go », qui est une façon de dire qu'on perd une femme, mais on en retrouve plusieurs, donc j'ai traduit par « une de perdue, dix de retrouvée », même si on ne retrouve pas le côté entre guillemets « meuf » ou « salope » qui est donné par « bitches », et donc, en seconde partie, « mon ami à l'enterrement de sa mère ». Donc, j'ai choisi de traduire un peu différemment par rapport à me telling, j'ai préféré mettre moi de petits points et avec une expression plutôt figée derrière. Et enfin, on a un dernier mème, donc agnostics be like, God, no God. Donc le texte présente, trois zones de texte qui sont courtes et décrivent une catégorie de personnes avec humour. Donc les deux parties textuelles en bas servent à apporter une information donc, sur les gens qui font partie de la catégorie agnostique. Donc ceux qui n'ont aucune preuve que Dieu existe, mais n'ont pas non plus de preuve que Dieu n'existe pas. L'image présente un livre bicolore qui suppose deux histoires différentes avec des éléments cartoonesques, par exemple les yeux de Bob l'éponge qui partent un peu dans les deux sens pour montrer qu'il est un peu hésitant, il ne sait pas trop quoi lire ou où lire. Et donc l'air hésitant et décontenancé montre en fait l'hésitation des agnostiques quant à la notion entre guillemets de Dieu. Et donc les agnostiques, puisqu'ils n'ont pas de preuve de l'existence ou de la non-existence de Dieu, se trouvent dans une situation d'hésitation et sont perdus vraiment entre les deux côtés du livre. Et donc entre les deux côtés de la question. Et j'ai choisi de traduire la difficulté de be like, qui est assez compliquée à traduire et plutôt agrammaticale. Je considérerais ça comme plutôt agrammaticale. J'ai traduit selon les agnostiques, d'un côté Dieu existe, de l'autre côté Dieu n'existe pas. Donc voilà ma conclusion et mes quelques perspectives de recherche. Donc chacune des deux langues a ses difficultés, qu'elles soient lexicales ou grammaticales. Et donc la retranscription des mèmes est un petit peu plus compliquée, étant donné que on joue justement sur les mots, on joue sur la grammaire, on joue sur le lexique. Donc c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, de trouver des équivalences en français. La traduction serait un moyen de faire ressortir la spécificité d'un mème et donc de la construction d'un mème, c'est-à-dire qu'on va associer une image et un texte à un tempérament, un comportement, une façon de voir les choses, une façon de communiquer, par exemple. Mais elle pose aussi le problème de l'absence d'équivalence lexicale dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'où le besoin d'employer des expressions idiomatiques, comme je l'ai fait avec « une de perdue, dix de retrouvée ». De même, on peut se poser la question sur le plan plutôt cognitif, je dirais, donc comment comprendre un mème en écartant la problématique du passage de la langue source à la langue cible, parce que je me doute bien, bon, comme vous êtes pour la plupart jeunes, vous avez déjà vu des mèmes et vous avez voulu les montrer à vos parents, vos grands-parents, et la compréhension zéro, donc c'est une très bonne question qui se pose ici. Et enfin, on a la question de la traduction assistée par ordinateur, notamment par ChatGPT, ainsi que la problématique de la transmission du sens d'un mème via une IA, donc une traduction idiomatique qui ne retire pas la valeur humoristique du mème, parce que j'ai tenté avec ChatGPT de traduire « bitches come and go » et il m'a dit « les salopes vont et viennent ».
Donc, on retrouve le côté vulgaire, mais on n'a pas l'expression idiomatique derrière. Et donc, voici les sources. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation.
Avez-vous des questions?
Oui.
Moi, je voulais savoir si tu avais trouvé des mèmes anciens qui avaient été traduits, donc soit du français vers l'anglais, soit de l'anglais vers le français, et s'il y avait certains néologismes, je crois que tu as travaillé là-dessus aussi en M1, qui avaient été traduits ou qui avaient été. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui sont repris dans les deux langues, donc on pense à Boomer par exemple, qui a des mots français. Est-ce qu'il y a certains néologismes qui viennent du monde anglophone qui ont été retranscrits par d'autres néologismes en France ou tu n'as pas.
Si on. Des mèmes, donc déjà merci pour la question. Si on parle des mèmes uniquement, par exemple, j'étais tombé comme beaucoup sur des groupes, etc., où on traduit par exemple be like par être comme, qui est une expression vraiment très figée et qui n'a pas tellement de sens, je trouve. Donc c'est possible de trouver des choses, mais honnêtement, j'ai préféré aller directement sur Reddit et sur le forum anglophone r/memes qui proposait vraiment une diversité de mèmes assez affolante. Plutôt que de trouver une page de mèmes francophones qui déjà n'est pas gage d'une traduction. Certains créent des mèmes directement en français sans passer par la case traduction, donc c'était beaucoup plus compliqué de trouver des mèmes déjà traduits.
Justement, est-ce qu'il y a certaines formulations en français de mèmes qui sont des traductions qui viennent directement de l'anglais
ou... Oui, comme le be like qui est devenu être comme. Sinon. Il n'y a pas tant de traductions que ça. Comme tu l'as dit, il y avait Boomer, Doomer, Zoomer, qui restent en fait dans la langue anglaise, même lors du passage en français. Oui.
Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as regardé ou pas, l'impact du média de base sur la compréhensibilité du mème. Par exemple, tu as montré un mème avec Gus de Breaking Bad, un autre avec un Spider-Man avec Tobey Maguire. Est-ce que tu as fait la différence entre certains mèmes ou comme celui de SpongeBob où il n'y a pas besoin de comprendre et de connaître le média de base pour comprendre le mème et certains mèmes où c'est vraiment important de connaître le contexte de la scène par exemple pour comprendre la blague
Ouais, j'ai pas tant mis le point dessus, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et au final, j'ai essayé de trouver quand même quelque chose que la plupart des gens pouvaient comprendre. On voit quand même dans le décor de Spider-Man qu'ils sont à un enterrement. Goose Fring, on voit juste qu'il est en costume. Et ça donne déjà une image un peu plus prestigieuse, un peu plus provocatrice peut-être du personnage. Donc j'ai préféré mettre l'accent sur quelque chose qu'on pouvait comprendre tous plus ou moins aisément. Oui.
Moi, je voulais savoir si, une fois que tu avais fait tes traductions, si tu avais eu un public, si tu les avais testés pour voir si ça fonctionne, et plus précisément, si oui, est-ce que tu as pu tester sur un public plus âgé, comme tu dis, pour voir s'ils comprennent?
Oui, alors ça c'est l'étape que j'aurais dû vraiment mettre en avant, donc peut-être la partager sur Reddit par exemple, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, mais j'avoue que je suis allé un petit peu directement au but et j'ai envoyé ça à une professeure qui n'est pas là, et qui m'a corrigé. Alors, on a eu quelques désaccords, notamment sur le Bitches Come and Go, ou sur la traduction de Be Like, mais en soi, le mème a été compris, la traduction a été comprise, donc ça me semble pas trop mal. Après, oui, j'aurais pu vraiment faire un partage massif des mèmes que j'ai traduits, et peut-être que j'aurais eu plus de retours positifs ou négatifs. Merci.
Merci pour votre présentation.